Les poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Denis Vestoff, bonjour.
Bonjour.
On se rencontre aujourd'hui à la boîte à livres à Tours, où vous venez donc rencontrer les lecteurs de votre récit, Sagan et Fils, paru en mai, fin mai, début juin de cette année.
Début juin,
chez Stock. Et puis, bon, je vous remercie d'accorder cet entretien pour les auditeurs de Radio Béton.
Je suis ravie d'être là.
Alors, donc, Denis Vestoff, vous êtes le fils de François Sagan, son fils unique. Et vous avez écrit donc, tout récemment sur François Sagan, sur votre mère, dans un récit qui n'est ni une biographie, ni une autobiographie, quoi qu'en disent la presse et les médias. Enfin, moi, j'ai pas le sentiment que ce soit vraiment ce genre de choses. Moi, j'avais envie de commencer à parler de ce livre par la fin, par le tout dernier chapitre de votre récit, où vous narrez les péripéties que vous avez rencontrées au décès de Françoise Sagan. Ce dernier chapitre est donc consacré au moment où il vous a fallu régler, refuser ou accepter prendre une décision concernant sa succession. Alors moi, j'avais envie de commencer par là, parce que ce que vous dites de cet épisode, de cet long épisode, hein, quand même, ça dure 3 ans, 4 ans, apporte un éclairage particulier, finalement, sur pourquoi vous avez souhaité parler de Françoise Sagan. À ce moment-là, vous découvrez que l'œuvre littéraire de Sagan est comme perdue, un peu comme si la France l'avait abandonnée et presque reniée.
Non, tout ce que vous dites est vrai. J'ai réalisé qu'une partie de l'œuvre était en fait non éditée, parce que les gens venaient vers moi et me disaient, après la disparition, il y a eu un moment où on a beaucoup parlé d'elle, parce que son décès, les journaux ont parlé d'elle, il y a eu le film de Diane Curis, il y a eu toute une série d'événements qui font qu'on a parlé d'elle, et donc les gens ont naturellement dirigé leur pas vers les librairies, ont voulu acheter du Sagan, et beaucoup de gens se rendaient compte qu'il y avait certains titres qui n'étaient plus du tout imprimés. Et les gens me disaient, tu sais, certains livres de ta mère ne sont plus disponibles en librairie. Et moi, j'étais assez surpris parce que je pensais pas qu'elle soit. Je pensais qu'elle était toujours dans les rayons des libraires. En fait. Mmh. Et puis, je passe tout un grand nombre de détails. En fait, en acceptant la succession en 2007, il y avait une grosse dette fiscale et puis les créanciers qui étaient un petit peu aux aguets, qui attendaient l'argent. Donc, il a fallu que je trouve de l'argent pour rembourser l'État. Et pour rembourser l'État, il fallait que je fasse travailler l'œuvre. Et pour faire travailler l'œuvre, il fallait que je fasse rééditer les livres. Tout ça, c'est une logique absolue. Et donc, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai attaqué l'éditeur en l'obligeant à éditer, à faire son métier. Voilà. Et tout ça aboutit à un joyeux procès qui a lieu en ce moment, d'ailleurs, qui n'est toujours pas fini. Et voilà, que dire d'autre ?
Entre autres choses, vous avez également souhaité écrire ce livre pour rétablir une certaine vérité,
oui. C'était pas la raison essentielle de mon livre. La raison essentielle de mon livre, c'est que en fait, j'ai été harcelé par un éditeur. En fait, je réalise que j'étais beaucoup harcelé ces dernières années par un éditeur pour faire le récit de la vie de ma mère. Et cet éditeur était un éditeur qui était très intéressé de faire une opération commerciale de la sortie du livre, qui voulait faire beaucoup d'argent, qui voulait parler de l'aspect bimol, de l'aspect de toutes ces facettes de la vie de ma mère dont on a parlé pendant des années dans les journaux, c'est-à-dire parler de la drogue, parler de l'alcool, parler de la vitesse en voiture, parler aussi du fait qu'elle ne payait pas ses impôts, etc. Donc, il voulait faire un livre un peu à scandale, vous voyez. Et moi, je voulais pas faire ça, parce que c'est pas l'image que j'avais de ma mère. Donc, je me suis réfugié chez Jean-Marc Roberts, qui est mon éditeur actuel, qui a réédité une partie des œuvres de ma mère. Et Jean-Marc m'a dit, si tu veux faire ton livre, sur ta mère, tu le fais chez moi, dans ma maison d'édition, et tu seras à l'abri, moi je te protège des emmerdeurs. Et voilà. Et donc j'ai fait mon livre chez lui, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire, et j'ai profité de l'écriture de ce livre pour régler certains comptes, comme on dit, avec certains biographes, et avec certaines libertés.
Certains biographes, et la presse aussi.
La presse, un petit peu aussi.
Vous dites que c'est pas la raison première, le rétablissement de la vérité. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'en fait, du coup, vous parlez de rétablir votre propre vérité, un peu déconstruire. Alors, déconstruire la légende de Françoise Sagan en apportant votre vérité. Et vous insistez pour dire que ça ne sera que votre vérité à vous.
Mais oui, parce que quelle autre vérité puis-je apporter ?
La vérité que les lecteurs, que le public, les lecteurs de François Sagan pourraient vouloir lire. Alors au final, c'est pas ça, et c'est très très bien. Je trouvais ça intéressant d'insister sur ce point. Je me dis, vous entretenez finalement quelque part cette légende, alors qui devient très belle hein, grâce à vous, hein, mais vous êtes quand même dans l'entretien de la légende finalement, elle ne sortira jamais de l'histoire qu'on raconte sur elle. Et...
Non, mais c'était une des personnalités les plus légendes, qui a eu le plus de légendes de sa vie, si je puis dire. Il y a peu de personnes publiques qui a eu autant dont on a dit autant de choses.
Et vous expliquez ça comment ?
Je pense pas qu'il y ait vraiment l'explication. Je pense que le premier fait, c'est que son livre a eu énormément de succès. Et qu'à l'époque où elle a fait son livre, elle avait 18 ans. Et que du fait de sa jeunesse, du fait du succès de son livre et du fait de ce qu'elle dit dans son livre, elle a bouleversé son époque d'une certaine manière. Elle a renversé plein de tabous. Toutes les jeunes filles de son âge, en 54, ont pris ce livre comme une bombe. Enfin, c'était une bombe. Elle a dit plein de choses que tout le monde pensait un peu tout bas. Et tout à coup, on a vu écrit sur du papier. Et puis après, elle a vécu très gaiement, parce qu'elle a gagné beaucoup d'argent, plus d'argent qu'une jeune fille de son âge. Et comme elle avait un esprit très libre, et qu'elle n'avait pas intention de mettre tout son argent à la caisse d'épargne, eh bien, elle a décidé de faire la fête, d'inviter ses copains et de mener la belle vie. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc elle a acheté des avoirs, elle est passée, elle est partie, elle a pris la nationale 7, elle est allée passer du bon temps à Saint-Tropez, elle est partie en voyage en Amérique. Elle a fait tout ce que vous auriez fait, je pense, peut-être.
Oui.
Donc, comme elle était pourchassée par la presse, on disait François Sagan a encore fait ci, François Sagan a encore eu un fiancé, François Sagan a encore acheté une Jaguar. Donc tout ça a contribué à agrandir cette légende, si vous voulez, parce que chaque fois qu'elle faisait quelque chose, on en parlait dans les journaux, il n'y avait pas une semaine, il n'y avait pas un article sur elle. Donc tout ça a fait une énorme, avec plein d'histoires mélangées.
Ça a duré très très longtemps,
ça
en fait.
Ça a duré presque jusqu'à la fin, puisque même lorsqu'elle a eu ses ennuis avec l'histoire de drogue, là, récemment. Voilà, donc cette légende, elle n'a jamais pu s'en défaire. Et puis moi, c'est pas moi qui vais dire que cette légende n'est pas vraie, parce que c'est vrai. Enfin, il y a une part de vérité dans tout ce qu'elle a vécu. C'est vrai qu'elle aimait aller vite en voiture, c'est vrai qu'elle aimait voir les musiciens à une certaine époque, c'est vrai qu'elle aimait faire la fête et se coucher tard. Mais je peux pas dire le contraire.
Vous avez pris le parti.
J'ai pas entretenu la jambe, j'ai juste dit oui, elle était là, mais il n'y avait pas que ça.
Il n'y avait pas que ça, voilà. Vous avez pris le parti aussi quand même de montrer une autre.
Moi j'ai montré
femme.
Ma mère, parce que c'est quand même. Moi ce que j'ai vécu avec elle, c'est. J'ai pas passé ma vie à avoir une Jaguar avec ma mère à l'avant, qui peut-être jusqu'à la main. J'ai vécu quand même une vie de petit garçon avec elle.
On sent énormément d'affection, beaucoup d'amour pour votre mère dans votre récit qui est très très touchant. Et quand je dis touchant, c'est pas mièvre du tout, quoi. C'est vraiment très très beau. Alors pour votre mère, mais aussi pour votre père, pour vos grands-parents maternels, hein, puisque je crois que vous n'avez pas connu vos grands-parents paternels, ou très peu.
Très peu, ouais. J'ai eu la chance de grandir avec des gens autour de moi qui étaient des gens absolument délicieux, intelligents, spirituels et gentils. C'est vrai que j'ai une chance inouïe. Parce que mes grands-parents étaient drôles, originaux, ma grand-mère était plein d'esprit, mon grand-père adorait faire des farces. Mon père était vraiment quelqu'un de très, très, très original, comme je dis dans mon livre.
Oui, il y a des moments très drôles justement là, sur l'évocation de vos grands-parents, des amis de votre grand-mère aussi, qui est un peu.
Non, mais c'était vraiment des gens drôles. Enfin, il y avait beaucoup de gens drôles, le plus souvent, il y a beaucoup. Enfin, moi je riais plus avec mes parents à la maison qu'à l'école avec mes copains.
Alors, je disais tout à l'heure que ce récit, Sagan et fils, ne constitue pas pour moi une biographie ni une autobiographie.
Non, j'ai raison.
Mais plutôt un récit mémorial, un recueil de mémoires familiales. Donc c'est un genre qu'on a peu l'habitude de rencontrer en littérature et puis alors surtout avec un tel impact médiatique. Vous écrivez, je l'ai dit bien sûr, sur votre mère, c'est évident, mais aussi sur votre père, sur vos grands-parents. Comment vous y êtes pris pour écrire ce livre ? Parce que vous dites vous-même hein, que vous n'êtes pas écrivain.
Au début, j'avais très peur. pour diverses raisons. Et d'une raison que vous pouvez d'ailleurs imaginer très facilement. Donc je me suis dit, je vais prendre quelqu'un pour m'aider. Alors j'ai pris quelqu'un pour m'aider. Et puis il s'est révélé qu'au bout de quelques mois, ou 3-4 mois, ce que je faisais, c'est que je dictais, cette personne prenait en note, et puis au bout d'un certain temps, elle me rendait les épreuves, manuscrits, dactylographie. Et puis en lisant ce que je disais, je trouvais ça pas du tout correspondant à ce que je voulais faire. Mmh. C'était faux. Même si c'était pas bon, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, au bout de 5 mois, j'ai dû me séparer de cette personne. J'ai dû recommencer le livre à zéro. J'ai tout jeté, tout ce que j'avais fait, j'ai mis au feu, j'ai recommencé à zéro, avec une page blanche. Et je me suis mis devant ma feuille et j'ai commencé à écrire. Et j'ai laissé vraiment ma mémoire se vider. J'ai vraiment écrit comme les choses venaient. Et tout ce qui me venait en tête, je l'écrivais.
Sans vous soucier là,
sans
du
vous soucier
style,
de l'ordre. Le style, je crois que j'ai un peu de facilité, donc j'ai réussi à écrire à peu près correctement.
Oui.
Mais pour ce qui est de la chronologie, j'ai vraiment écrit entièrement, vraiment comme les choses venaient, parce qu'il fallait que j'aille vite, donc je suis allé vite.
Mm-hmm.
Et puis après, j'avais une correctrice chez Stock qui récupérait mon travail, qui remettait les choses en place, qui me les renvoyait.
Mm-hmm.
Et on a pu reconstituer une sorte de, pas vraiment de chronologie, mais de chapitre.
Mm-hmm.
Mais c'était vraiment un travail comme ça, c'était un flux en fait,
mm-hmm.
une écriture presque automatique.
D'accord. Alors, j'ai lu qu'un critique parlait de votre récit comme d'une succession d'anecdotes.
Ouais.
Bien souvent, l'anecdote reste quelque chose de très secondaire, dont on pourrait croire que le lecteur pourrait facilement se passer. Je suis d'accord avec le critique, hein. Il y a beaucoup d'anecdotes dans votre livre, effectivement. Mais alors, votre force, c'est d'utiliser ces anecdotes comme un stratagème très habile pour donner corps à Françoise Sagan, bien sûr, et aussi aux autres personnages qui éveillent votre récit. À la lecture de ce livre, je dirais que de ces anecdotes très nombreuses, vous dessinez un portrait très touchant de cette femme. M'est venue l'idée que vous aviez comme un don pour rendre l'anecdotique essentielle. Et ma question, c'était du coup, vous vous rendez compte aujourd'hui que vous êtes un véritable écrivain ?
Non, pas vraiment.
D'accord, donc moi je vous le dis. Oui, il y a énormément de très très bons moments dans votre livre. Alors moi j'ai beaucoup aimé l'évocation du manoir du Breuil. Mmh. Alors c'est amené justement par une anecdote en fait, comment ce manoir a été acheté. Moi je vous le
prends. Qui est une anecdote très amusante.
Très très amusante. Mais vous allez bien au-delà de tout ça, bien sûr. Bon, vous l'avez vécu et cette évocation de ce manoir comme un cocon ou. Moi, j'ai trouvé ça très, très joli, la nature aussi, le jardin de ce manoir. Et puis, alors, aussi également, je pense qu'une grande attention à tout ce qui est construction grammaticale, ce genre de choses, un lexique très précis. Vous variez les rythmes, justement. Vous faites en sorte de faire écouter cette petite musique.
Mais j'ai un style facile. Enfin, facile.
Oui, une écriture très fluide.
J'ai une écriture très fluide.
Oui, pour quelqu'un qui ne se dit pas écrivain.
J'ai une écriture fluide, alors.
Après, un petit peu autre chose qui m'a frappée, c'est à quel point vous faites en sorte de décrire une enfance normale auprès de vos parents. Pour moi, c'est un paradoxe parce que, en même temps, rien ne paraît normal chez eux. Votre mère est bien sûr assoiffée de liberté, de vitesse, prodige de la littérature. Votre père, mannequin, sculpteur, acteur de la troupe Little Nice.
Danseur.
Les danseurs, voilà, les grands-parents dont on a parlé tout à l'heure. Si rien de tout ça semble constituer une enfance normale, l'évocation de vos grands-parents, par exemple, ça m'apparaît un petit peu comme une volonté de votre part de la disculper, en quelque sorte, des phrases que les médias lui ont reprochées. Est-ce que je me trompe ?
Par rapport à ce qu'elle avait fait.
Oui, ce que je me dis avec des parents comme elle a eu, finalement, comment elle pouvait être autrement que originale, spontanée, excentrique,
Oui, elle a toutes les raisons d'être. Mais vous savez, elle a une sœur qui était beaucoup moins excentrique qu'elle. Et elle a un frère qui était excentrique.
Quand même. Enfin, le gros de la famille, si je puis dire,
était
comme ça, était quand même...
Très excentrique. Et puis elle avait surtout un esprit qui était très, 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 très ouvert. Et puis elle avait une grande curiosité, une grande intelligence. Mais là, je ne vous apprends rien. Et puis elle avait une très grande force en elle.
Mm-hmm.
Donc en plus de l'excentricité de ses parents dont elle avait hérité, peut-être qu'elle avait cette énorme énergie, enfin, cette énorme force qui l'a conduite vers la lecture et vers l'écriture.
Et une grande sensibilité
aussi. Une énorme conscience. du monde qui l'entoure, oui. Des autres, etc.
Oui, moi ça m'a étonné.
Une grande générosité, d'attention, et puis beaucoup de choses qui la touchaient, peut-être plus que nous. Mais...
Oui, parce que enfin, là, moi j'ai appris que, bien sûr, la fête, ce genre de choses, mais enfin ça constituait quand même pas l'essentiel de sa vie finalement, et que l'argent dont vous parliez tout à l'heure, dont elle a profité, elle en a fait profiter aussi des parfaits inconnus qui étaient dans le besoin, c'est quand même...
assez rare.
Très rare, je dirais. Donc, et alors j'ai découvert aussi que votre mère était écologiste avant l'heure.
Oui. Moi aussi j'ai découvert ça en écrivant ce livre, figurez-vous.
D'accord.
Ce livre m'a permis de rajuster, de pas jeter, mais de m'assurer de certaines choses. Et en l'occurrence, qu'elle avait une vraie passion pour la nature depuis l'enfance, puisqu'elle a découvert l'enfance pendant cette période d'occupation où elle était dans le Vercors avec son père et sa mère, où elle se promenait à cheval toute seule sur les collines et dans les bois. Et elle a pris une véritable passion pour la nature, les animaux, les arbres, la campagne, les odeurs de la campagne, l'herbe, tout ça, je le lis dans le livre.
Mm-hmm.
Et ça lui restait toute sa vie.
Oui, un véritable lien avec la terre.
Un véritable lien avec la terre, avec les odeurs, avec les sensations de la campagne, etc. Et elle est restée très attachée et donc elle défendait franchement la nature. Et qu'on fasse du mal, c'est un peu bêta comme formule, mais l'idée qu'on puisse faire une guerre nucléaire et tout brûler, pour elle, c'était absolument scandaleux.
Oui, voilà, c'est là où j'allais en venir. En fait, elle avait une peur panique de l'accident nucléaire.
Mm.
Panique, peut-être que j'exagère.
Mais... Non, une panique, non. C'est long.
Et une conscience de ça que vous décrivez à travers...
La crise de Cuba.
Oui, voilà.
Quand les Russes ont voulu installer des fusées à Cuba, on a frôlé la catastrophe.
Elle avait le sentiment qu'elle était seule à comprendre ce qui se passait, enfin qu'autour d'elle, finalement, ça touchait pas plus que ça, son entourage, quoi.
C'est un peu comme
le
ça.
Risque.
Oui, c'est un peu comme ça que j'ai ressenti. Elle était vraiment en panique, puisque je dis qu'elle arrive dans un dîner, que les gens sont tranquillement à table, alors qu'elle s'est dit, mais vous n'avez pas conscience de ce qui est en train de se passer. Elle avait une conscience très aiguë de ça, et une peur. Encore plus aigu de ça, je crois.
Vous écrivez pour établir votre vérité, pour clamer quand même...
Certaines vérités.
Oui, votre vérité, c'est pour ça que j'insiste aussi sur le terme. Pour clamer votre amour à votre mère, alors je ne sais pas si vous l'avez fait pour ça, mais c'est ce qui ressort de ça, pour votre père, encore une fois, j'ai dit. D'ailleurs, c'est le seul moment où vous vous montrez un petit peu dur, entre guillemets, parce que c'est quand même pas des attaques envers Françoise Sagan, c'est pour évoquer les comportements qu'elle pouvait avoir avec votre père, enfin un peu autoritaire.
Un peu dur.
Un petit peu dur pour autant, où elle le forçait un petit peu à jouer le rôle de père envers vous et à vous gronder. Quand vous aviez de mauvaises notes, par exemple.
Jouer un rôle un peu de père, quoi.
Ouais.
Comment dit-on, d'autorité. Voilà, d'être un petit peu le garant de mon éducation, d'être le point fort. Parce que tout ça c'est aussi une notion assez... Parce qu'il y avait une notion finalement assez classique des choses.
Oui.
Elle avait une vision assez classique des choses. Donc tout ça c'est une vision un peu traditionnelle, je dirais, du rôle de la mère. Enfin, du rôle de la mère, elle n'a pas vraiment eu, mais le rôle du père, il fallait qu'il soit là, le rôle des parents aussi, le rôle de l'éducation qui est très important.
Mm-hmm.
Elle a fait très attention à ce que je sois bien élevé, bien éduqué, bien habillé.
Que vous fassiez votre service militaire aussi.
Que je fasse mon service militaire.
Mais pas les choses qu'on imagine de Françoise
Sagan. Non, c'est pas les choses qu'on imagine d'elle, mais au fond d'elle-même, elle était gémeaux, elle avait deux personnalités, un côté très classique, un côté très rock'n'roll.
Mm-hmm.
Elle avait les deux. Mais...
Alors, si on sent énormément d'amour dans votre récit, que c'était pas pour vous une façon de passer à l'acte, de devenir écrivain, comme s'il fallait un petit peu exorciser ça en passant par... Allez, c'est bon, je vais y aller, je vais raconter mon idée de ma mère, et après, je m'occupe de mon écriture à moi.
On verra bien, je sais pas, je vais voir si je peux écrire un deuxième livre.
Ouais.
Si je peux écrire un deuxième livre, c'est que je vais écrire. Hein.
Alors, j'ai lu qu'il était prévu une suite...
Je crois que c'est un petit peu les histoires de journalistes.
D'accord. Ouais.
Okay. J'ai rien promis encore.
D'accord. En tout cas, moi, j'ai envie de vous lire prochainement, à nouveau, de lire Denis Vestoff, écrivain tout court. Je vous remercie pour cet entretien autour de Sagan et fils.
Je vous en prie. Merci.
Et je vous souhaite une bonne rencontre avec vos lecteurs ce soir.
Merci.